En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Sous la présidence de M. André Damien, l'Académie des sciences morales et politiques poursuit tout au long de l'année 2006 une réflexion sur la justice. Chaque lundi, les académiciens entendent la communication d'un intervenant. Et le lundi 19 juin 2006, c'est M. Jean-Pierre Berthet, président d'honneur de l'Association de la presse judiciaire, qui a fait une communication sur le thème « Justice et médias ». Jean-Pierre Berthet a été chroniqueur judiciaire durant 30 années. Il est donc tout à fait autorisé pour retracer l'évolution des rapports, parfois conflictuels, entre la justice et la presse. Canal Académie vous propose de le rejoindre dans la salle des séances.
Mesdames, messieurs les académiciens, laissez-moi d'abord vous dire que je suis très honoré d'être accueilli dans ce lieu qui, pour moi, inspire le respect. Alors, vous m'avez demandé, en effet, une contribution sur un sujet dont l'actualité est permanente, les relations entre les médias et la justice. Il suffit de parler au présent, de décliner, en quelque sorte, affaire d'Outreau, dossier Clearstream. Qu'est-ce qu'on remarque aussitôt ? Qu'il s'agisse de gens ordinaires, modestes ou de personnalités politiques, peu importe. Les relations entre la justice et les médias sont essentielles à la connaissance des faits, à la recherche de la vérité et au respect des personnes visées. Je m'empresse de dire que, devant le puits de science que représente le bâtonnier d'Amiens, ma contribution sera beaucoup plus terre-à-terre, elle sera modeste. Je ne suis pas un théoricien, je n'en ai ni la formation ni la vocation. Je revendique en revanche le statut de praticien en regard de mes 35 années de journalisme télévisé, dont 25 et même un peu plus, je refaisais le compte récemment, 25 années consacrées à l'actualité judiciaire, et j'ai l'ambition de penser que ça n'est pas tout à fait terminé. Je vais donc vous raconter ma vie, enfin rassurez-vous, uniquement ma vie professionnelle, et ce n'est pas par narcissisme, il se trouve, toute fausse modestie mise à part, que mon aventure professionnelle avance au rythme des évolutions du couple singulier que forment les médias et la justice. Et c'est tout naturellement, je pense que vous l'accepterez volontiers, à travers le prisme particulier de la chronique judiciaire à la télévision que se décline ma petite histoire. Remontons dans le temps. Première époque, nous sommes au début des années 70, je fais mes premières armes dans la chronique judiciaire à la télévision, et sur le banc de la presse, je reçois les conseils d'un ancien, Jean Laborde, journaliste à l'Aurore et romancier. Certains d'entre vous se souviennent certainement de lui. « Tu es jeune, me dit-il, laisse tomber le judiciaire, ça ne mène à rien. Fais du journalisme politique, c'est là qu'on rencontre les gens importants et qu'on fait carrière. » À l'ORTF, où j'ai été recruté en 70, après 5 années à Europe 1, il est de fait qu'il n'y a plus de chroniqueur attitré depuis les événements de mai 68. L'irremplaçable Frédéric Potcher a laissé au rédacteur en chef de l'époque le souvenir d'un journaliste de talent, certes, mais trop indépendant, imprévisible et, pour tout dire, ingérable. Et pour la télévision des années 68-74, la justice est un genre mineur, la rubrique judiciaire est quasiment à l'abandon et les faits de société ne sont pas loin d'être considérés comme subversifs par certains patrons de rédaction. Deuxième époque, la fin de la guillotine. Je crois que ma passion pour le judiciaire a été définitivement scellée à la cour d'assises de Troyes en 1977, à l'occasion d'un procès mémorable. J'y ai vu, dans une plaidoirie d'anthologie, Robert Badinter, chef de file des avocats abolitionnistes, arracher Patrick Henry, ravisseur et tueur d'enfants, à la peine de mort. En 1980, je rencontre à la chancellerie le tout nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter. Je lui apprends que j'ai été sollicité pour présenter le journal de 20h. J'ai encore sa répartie en mémoire. J'espère qu'il n'en voudra pas de la rappeler ici. Il est vrai, me suggère Robert Badinter, que sans la peine de mort et son effet de dramatisation, la chronique des grands procès criminels va baisser en intensité. Un constat très clinique, un peu cynique, penserez-vous, mais peut-être le nouveau ministre voulait-il me rassurer au moment où je m'éloignais un peu trop tôt, un peu trop vite de ce judiciaire qui m'avait déjà séduit. Peut-être cherchait-il aussi à se consoler lui-même de devoir quitter sa robe d'avocat. Troisième époque, les années 90. Ni Robert Badinter, ni mon confrère Laborde ne pouvaient imaginer ce qui allait se produire, l'irruption de la justice dans les problèmes de société. On assiste en particulier à l'explosion des dossiers politico-financiers. La chronique judiciaire redevient un genre moderne et prioritaire de l'actualité. Les comptes rendus d'audience font régulièrement la une. Je me revois en direct tous les soirs ou presque au journal de 20 heures. La couverture jusqu'alors occasionnelle des procès de longue durée donne lieu à des feuilletons quotidiens. Les 5 semaines de la saga Villemain, les 2 procès du sang contaminé, les 15 jours de l'affaire OMVA, le dossier Péchinet, les procès noirs, Botton, Tapie, Carignon, etc. Les chroniqueurs judiciaires, longtemps considérés comme les survivants d'un exercice un peu désuet, se retrouvent subitement au cœur de la tourmente judiciaro-politique, financière et sociale. Et ils découvrent, non sans surprise et appréhension, les enjeux et les pressions. Ici, une précision, ce qui est vrai pour la télévision l'est aussi pour la radio et la presse écrite. Il existe une interaction, un phénomène d'entraînement entre ces différents médias. Les journalistes judiciaires cultivent d'ailleurs une tradition de solidarité, un état d'esprit qui n'est pas si répandu dans la presse. Ils sont tous regroupés au sein d'une association confraternelle qui est largement centenaire, elle va fêter bientôt ses 120 ans, et elle a ses locaux au sein du Palais de justice de Paris. Les chroniqueurs échangent leurs informations, ils préparent ensemble la couverture des procès, et ils opposent un front commun aux éventuelles pressions venues d'ailleurs. J'ai compris très vite que les médias étaient un enjeu majeur dans le processus judiciaire. Tenez, mon plus lointain souvenir de charmeur des prétoires s'attache curieusement à un ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine. Ça dit quelque chose à tout le monde. Début 77, à la cour d'assises de Paris, on s'attend à voir entrer un fauve dans le box des accusés. Jugé pour homicide, Mesrine est considéré comme un spécialiste de la prise d'otage et de l'évasion. Stupeur, l'homme qui apparaît entre des gendarmes athlétiques offre un visage aimable. Il se contrôle, il est presque mondain. Comme s'il entrait dans un salon, Mesrine regarde les chroniqueurs judiciaires et adresse à certains un salut qui paraît même personnalisé. Il m'a aperçu à la télévision, il me le fait savoir sans exagération et même avec une certaine élégance. Comme quoi, j'en déduis à l'époque, déjà, que pour la presse, les flatteries peuvent venir de partout, même d'un ennemi public numéro 1. Avec Action Directe, j'ai connu autre chose, l'intimidation. En janvier 88, les meneurs du groupe terroriste s'apprêtent à comparaître pour les assassinats de Georges Besse, président de la régie Renault, et du général Audran, ingénieur de l'armement. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Georges Cipriani, en grève de la faim depuis 40 jours, somnolent dans leur box aux vitres blindées. Un autre accusé, plus dynamique, celui-là, et un peu en marche, s'enflamme brusquement contre la presse télévisée. Ça ne va pas, les commentaires de Berthet. Il faut dire la vérité sur les gendarmes qui nous distribuent des coups dans les coursives du palais. Un peu plus tard, à une sortie d'audience, un magistrat de la section antiterroriste du parquet de Paris me prend par le bras, m'entraîne un peu à l'écart et m'explique discrètement que je suis dans le collimateur du groupuscule. Je lui demande « Mais que dois-je faire ?» Et le magistrat me répond « Rien ». Il n'y a pas de menace physique pour l'instant, mais enfin, vous êtes prévenu. Curieux message qui, à l'époque, tout de même, m'en dit trop ou pas assez, c'est la réflexion qui me vient à l'esprit, et dont je ne connaîtrai d'ailleurs jamais la part de vérité et la part d'intoxication. Je retiendrai en revanche le conseil du magistrat qui présidait la cour d'assises de Paris et à qui je m'étais confié de cet incident. Xavier Versini, c'est de lui qu'il s'agit. Ne s'affole pas. Il me dit, vous savez, il suffit de ne pas en rajouter. Chacun doit rester dans son rôle. Le président préside. L'avocat général accuse. Le journaliste commente. La provocation, la vexation, l'humiliation sont inutiles. N'importe quel accusé a droit dans son box, fût-il terroriste, à une certaine forme de respect. Une belle leçon de neutralité qui mériterait peut-être d'être rappelée aujourd'hui encore à certains acteurs et commentateurs du débat judiciaire. Même si le président Versini a quelque peu dérapé ensuite dans un livre en disant des jurés populaires qu'ils étaient les sélectionnés du métro. Quand les hommes d'influence entrent dans les prétoires à partir de 90, c'est un autre combat qui commence. Hommes d'affaires, hommes politiques, ils sont alors persuadés que leur procès se gagne ou se perd à la télévision. On se souvient des bras de fer entre Bernard Tapie et le procureur Éric de Montgolfier à Valenciennes. Un Bernard Tapie qui était prêt, comme on le dit aujourd'hui pour le foot, à refaire l'audience devant les caméras chaque soir à la sortie du palais de justice pour le journal télévisé. En fait, à l'époque, ces inculpés très médiatiques ont une totale méconnaissance du débat judiciaire. Les recettes habituelles, la séduction, la protestation, l'intimidation si efficaces sur un plateau de télévision ne marchent pas au tribunal. Bernard Tapie et les autres se heurtent pour la première fois à un mur de 3 juges qui s'appuient sur un dossier et qui se retranchent derrière la loi et la procédure. Et ces hommes importants, brusquement inquiets, désemparés, déstabilisés, prennent la presse à témoin. Ils se lamentent du traitement qui leur est fait par la justice, ou ils se plaignent auprès des journalistes de leurs papiers ou comptes rendus. Depuis, je dois dire, les stratégies de communication ont considérablement évolué, puisqu'au dernier grand procès politico-financier, celui des marchés publics d'Île-de-France, en 2005 à Paris, pas un inculpé, pas un avocat de la défense n'acceptait de commenter les audiences le soir devant micros et caméras. Ne croyez pas que dans ces années 90, les magistrats restaient parfaitement stoïques devant l'écho médiatique. Ils étaient eux-mêmes sous pression face à des prévenus influents et experts en communication. Certains, comme Éric de Montgolfier, prenaient le risque de sortir de leurs réserves pour répliquer dans les médias. D'autres se préparaient à diriger le procès de leur vie. Je me souviens de ce président de tribunal en province, dans le Nord, un homme très sympathique, qui m'avait accueilli fièrement avant un procès de Bernard Tapie, il y en a eu quelques-uns. Comme un architecte inventif, il m'avait montré l'installation mise en place au palais de justice avec de faibles moyens. Pendant le procès, après l'audience du matin, il se précipitait chez lui à 13h, c'est ça la province, pour voir le compte-rendu de TF1. C'était l'événement, c'était un peu la fête. Jusqu'au jour, qui est venu assez vite d'ailleurs, où la tonalité de mon commentaire ne lui a pas plu, il s'est brusquement raidi. Il a fait savoir autour de lui qu'il ne regardait plus TF1. Et quand je le croisais dans un couloir du palais, il y avait, je le revois encore dans son regard, comme de l'amertume et de l'incompréhension. Signe avant-coureur, dans les années 70, mon premier contact avec la haute magistrature a été rude. Je croyais pouvoir rencontrer un procureur général près la cour d'appel de Grenoble à propos de la préparation d'un magazine télévisé. Quel n'a pas été mon accueil au secrétariat du dit procureur général, une fin de non-recevoir qui voulait dire « Mais vous n'y pensez pas, jeune homme !» J'avais commis un crime de lèse-majesté. Cet enfermement dans une tour d'ivoire a d'ailleurs été longtemps vécu par les magistrats comme une prise de distance salutaire avec l'extérieur et en particulier avec la presse. En 1986, courageusement, à une époque où c'était, on peut le dire, révolutionnaire, la direction de la formation continue à l'École nationale de la magistrature a créé une session d'apprentissage des techniques de communication. J'anime d'ailleurs toujours aujourd'hui cette session avec Hugues Liez, ici présent, qui me fait l'amitié d'être parmi nous, et Dominique Verdeillan. À l'origine, je co-dirigeais avec un magistrat chevronné dont le premier conseil à ses collègues stagiaires a été « Apprenez ces techniques d'expression, messieurs, mais croyez-moi, la seule attitude à avoir vis-à-vis de la presse, c'est la langue de bois. Résistance, résistance. » Au fil des années, j'ai vu les magistrats stagiaires se décrisper. Ceux du parquet, plus particulièrement, ont compris l'utilité, la nécessité de pouvoir faire face aux médias lorsqu'une actualité judiciaire le commande. Et ces dernières années, la chancellerie a fait désigner des délégués à la communication dans toutes les cours d'appel et pour les grands procès médiatiques. Le monde de la justice a longtemps montré sa méconnaissance des médias et des choix de l'actualité. Par exemple, à propos du retentissement prévisible de certains procès, il m'est souvent arrivé de prévenir des magistrats que telle ou telle audience organisée par leur juridiction allait très fatalement attirer la presse et le public. Eh bien, parfois, réaction d'étonnement, d'incrédulité, du style « je ne comprends vraiment pas l'intérêt pour ce dossier ». Un refus qui, d'ailleurs, pouvait dissimuler autre chose, peut-être une inquiétude « je n'ai pas du tout envie de voir débarquer la presse ». Un procureur de tribunal de grande instance de l'ouest de la France m'avait d'ailleurs très bien expliqué la problématique. Une affaire délicate ou compliquée vous tombe dessus. Il faut gérer en urgence l'enquête, la procédure, les victimes éventuelles. Et en plus de tout ce travail de juriste et de directeur d'enquête, il faut improviser dans un métier qu'on ne connaît pas, la communication face à la sollicitation des médias. À l'ENM, en formation continue, je suis d'ailleurs souvent interrogé sur la gestion de la communication en situation d'urgence. La conscience collective de la magistrature souffre encore du syndrome de l'instruction à ciel ouvert qui s'enlise dans une médiatisation outrancière et non maîtrisée. Vous pensez tous, bien sûr, à l'affaire de Bruet-en-Artois et du juge Pascal, ou, moins loin que cela, à l'affaire tristement emblématique du petit Grégory et du juge Lambert en 84. C'est un chapiteau médiatique qui tombe en 48 heures sur la tranquille Épinal. Un tourbillon de reporters, de radio-reporters, de caméramen, de photographes, de paparazzi qui sèment la confusion et la démesure. Le juge est traqué, harcelé, il n'a plus de recul, aucune stratégie de communication. Il cède, il lâche quelques petites phrases ici et là au détour de couloir du palais, et puis se prenant au jeu, il finit par parler à tort et à travers. Depuis des années, je conseille aux magistrats de cadrer leur communication. Sur une affaire brûlante, il s'agit tout simplement de renvoyer l'ensemble des médias à des points de presse périodiques, selon l'évolution de l'enquête. Ça évite l'exercice difficile, risqué, consommateur de temps, de l'entretien individuel et impromptu. Cela donne aux journalistes et à leur rédaction une promesse régulière d'information. J'ai pu mesurer à TF1 l'effet bénéfique de cette communication programmée, organisée. À la conférence de rédaction, le matin, il est annoncé aux présentateurs et rédacteurs en chef que le procureur s'exprimerait sur l'affaire en fin d'après-midi, à 17h, 18h. Cela fait baisser la pression et l'impatience d'une rédaction en quête légitime d'information sur un sujet d'actualité. Les journalistes, parlons d'eux, connaissent l'angoisse de la page blanche. Pour la plupart, ce ne sont pas des aventuriers, ce sont des salariés à qui leur rédaction en chef commande un travail. Elle leur demande de rapporter des informations. Et quelles qu'en soient les bonnes ou mauvaises raisons, il est toujours douloureux pour un journaliste de revenir en disant « Je ne sais rien, je n'ai rien appris, je ne suis au courant de rien ». Or, il y a encore aujourd'hui des juridictions qui se refusent à toute communication, même la plus anodine. Il n'y a pas si longtemps, à propos d'un contentieux automobile, un tribunal de grande instance du centre de la France refusait de donner au téléphone une indication d'horaire pour un référé. Le reporter de TF1, légitimement surpris, choqué même, disait alors à ses confrères « Écoutez, je connais en France un tribunal où les juges ne veulent même pas te dire l'heure qu'il est. » Permettez-moi de boire un peu d'eau. À la décharge des magistrats frileux, leurs interlocuteurs ne sont pas toujours rassurants. Dans la presse, on ne choisit pas des spécialistes du judiciaire pour couvrir ce qu'on appelle les faits divers. Les juges d'instruction et les procureurs voient débarquer des reporters, comme l'on dit, tout terrain. Tous ne font pas la différence fondamentale entre siège et parquet. Ils font ouvrir les enquêtes par des juges d'instruction. Ils prêtent les mises en examen aux procureurs. Tout cela fait évidemment désordre et inspire difficilement la confiance des magistrats. Dans les écoles de journalisme, la formation au judiciaire reste insuffisante malgré certains efforts. TF1 et France 2 ont pris cette difficulté en compte il y a une dizaine d'années. Des formations juridiques spécifiques ont été dispensées aux journalistes et le niveau de connaissance de la chose judiciaire s'est sensiblement amélioré dans les rédactions, même si ça n'est pas suffisant. À un moment où on parle de rapprocher les formations initiales des futurs magistrats et avocats, il serait sûrement intéressant d'y associer les élèves journalistes. Un stage à l'école de Bordeaux, même de courte durée, aurait certainement des vertus pédagogiques. On ne pourra jamais obtenir de la presse et des médias qu'ils fraternisent. Tout les sépare, tout les incite à se méfier l'un de l'autre. La presse est à l'affût des dérapages de la justice, erreurs de procédure, remises en liberté intempestives, récidives, dysfonctionnements. Les journaux se nourrissent de bavures judiciaires. Les journalistes font de l'exploitation de ces affaires un devoir d'information et même un devoir citoyen. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Les magistrats dénoncent volontiers les approximations de la presse. Même la chronique judiciaire, réputée plus fiable que le reportage d'investigation, n'échappe pas aux critiques. Un président de cour d'assises parisien expliquait récemment que, contrairement à une idée reçue, les jurés populaires ne sont pas influencés par les papiers de la presse. Ils s'en amusent. Les jurés ont évidemment suivi toute l'audience, de la première à la dernière seconde. Les journalistes, quant à eux, sont bien obligés, comme ils le disent, de décrocher pour taper leur compte-rendu. Et selon ce président persifleur, les jurés, en lisant les journaux le matin, ont parfois l'impression de ne pas avoir suivi le même procès que les chroniqueurs la veille. Je suis naturellement solidaire de mes confrères et je trouve que le propos est pour le moins sévère. Il est possible néanmoins que l'on n'ait pas la même perception du débat judiciaire selon l'endroit d'où on le suit. Juger ou relater une audience suppose des approches et des finalités différentes. Et on touche là encore au malentendu permanent qui sépare la justice des médias. Il y a de toute façon une différence de rythme entre les deux institutions. Les juges ont besoin de temps et de réflexion pour établir une vérité. Ils se doivent de privilégier la présomption d'innocence et de protéger les intérêts des citoyens. Les journalistes aussi, me direz-vous. Mais, avouons-le, ce n'est pas leur première obsession. Ils travaillent dans l'urgence, ils revendiquent la transparence pour une information immédiate et aussi complète que possible. On l'a vu dans l'affaire Doutreau, et dans l'affaire Baudis aussi. Le système peut déraper quand les médias informent sur l'enquête judiciaire en temps réel. gare à la tentation du reporter de se substituer au juge d'instruction. Il cherche lui-même des preuves, des documents, des témoignages. Parfois, il contribue à faire avancer l'enquête. Parfois, il s'égare, il se fourvoie, et son travail de pseudo-enquêteur, sans les moyens de la police et de la justice, peut faire de gros dégâts sur l'image et la réputation des personnes visées. Récemment, une jeune magistrate en colère me disait, à l'école de la magistrature, « Les reporters sont des requins, assoiffés par l'odeur et le goût du sang. Ils bousculent tout sur leur passage, et ils repartent sans se soucier du mal qu'ils font, en laissant parfois derrière eux des juges détruits. » Sic, je n'invente rien. C'est une déclaration d'une très grande force et d'une très grande violence qui nous fait réfléchir. Une vision, certes, un peu apocalyptique du journalisme d'investigation, mais qui en dit long sur le fossé qui sépare encore ces deux mondes, la justice et l'enquête journalistique. Ces dernières années, l'actualité a connu une formidable accélération, avec l'irruption dans les médias, des radios et des télévisions d'information continue. L'image, si l'on peut dire, va plus vite que la musique. Au procès d'une affaire de pédophilie à la cour d'assises de Melun, il y a quelques années, des adolescents, partis civils, sont filmés presque à leur insu, presque incidemment, j'allais dire, parce que des caméras sont là, comme toujours, à leur entrée dans le prétoire. Un peu plus tard, leur avocate se dirige enfin vers les journalistes et demande que les images ne soient pas exploitées. Trop tard, transmises directement du palais de justice par un quart de diffusion, elles sont déjà diffusées en boucle, de flash en flash, sur une scène d'info continue, le mal est fait. L'actualité vieillit très vite. L'information qu'on découvre le matin à la radio, et qui est maintenant répétée toute la journée, de flash en flash, se retrouve souvent dépassée à l'heure de la grand-messe, le JT de 20h. Et moi, j'ai vu, dans les conférences de rédaction de TF1 le matin, les présentateurs et rédacteurs en chef anticipaient sur une actualité qu'il allait falloir peut-être espérer pour qu'elle soit encore suffisamment actuelle, fraîche, au moment du journal de 20h. A fortiori, quand il s'agit de justice, la sensation d'avoir tout vu, tout compris, dès que l'affaire éclate, se répercute sur la suite des événements. Le procès, quand il survient des années plus tard, est souvent perçu comme du réchauffé. Même dans le public, la sentence est sans appel. « Encore cette histoire-là, mais je croyais que ça avait déjà été jugé !» Combien de fois j'ai entendu cette réflexion, y compris dans les rédactions de la part de journalistes reconnus. Et la tendance qui consiste à exploiter à fond le fait divers dans les médias, au détriment du procès qui suivra, ne fait, me semble-t-il, que s'accentuer, et j'ai tendance, je le reconnais, à le déplorer. Devant la commission d'enquête sur Outreau, des juges de Boulogne-sur-Mer se sont plaints d'avoir dû travailler sous la pression des médias, notamment les JLD, les juges de la liberté et de la détention, et les magistrats de la Chambre de l'instruction lorsqu'ils devaient prendre des décisions sur des demandes de remise en liberté. Il est certain que le tintamarre médiatique peut nuire à la sérénité de la justice. On connaît des magistrats qui rêveraient d'un monde sans médias, où les décisions judiciaires seraient rendues dans le silence et le recueillement. On connaît d'autres juges qui ont suffisamment d'autorité et de professionnalisme pour ne pas se laisser influencer par des ambiances extérieures. Et puis la justice doit balayer devant sa porte. Dans son attitude vis-à-vis des médias, elle n'est pas exempte d'ambiguïté. Rappelez-vous, il y a une quinzaine d'années, certains juges financiers emblématiques avaient une stratégie de communication pour faire avancer leurs enquêtes. Ils choisissaient des relais dans la presse pour contrer les pressions exercées sur les dossiers sensibles. C'est d'ailleurs sa confrontation avec le monde des affaires et celui de la politique qui a poussé la justice à se rapprocher des médias. Arrive ici d'ailleurs une question, une interrogation. L'ennemi juré du magistrat est-il le journaliste ? N'est-il pas plutôt le politique ? Je suis un peu gêné de dire ça devant M. Mazot et M. Mesmer, ils ne m'en voudront pas, mais j'enchaîne. Des siècles de soumission au pouvoir politique ont rendu le cuir de Thémis sensible. Les juges qui ont obtenu de haute lutte une certaine émancipation ne craignent qu'une chose, la reprise en main. Les magistrats qui se sont mobilisés contre les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur Outreau y voyaient une manœuvre pour les remettre au pas. « L'occasion est trop belle de rabaisser nos caquets », me confiait une magistrate appartenante à la haute hiérarchie. Et c'est vrai que le juge, drapé dans son indépendance, coincé dans son armure corporatiste, doit se méfier de ne pas voir des ennemis partout. L'avocat, cher bâtonnier Damien, l'avocat est souvent considéré comme un gêneur, un faiseur d'incidents, alors que dans une justice idéale, il pourrait être un partenaire associé à la recherche de la vérité, un véritable auxiliaire de justice, ce qui est en principe sa vocation. L'avocat davantage préoccupé, il est vrai, par le sort de son client que par la bonne tenue du procès. L'avocat infiniment plus libre de ses propos que le magistrat. Et c'est très logiquement d'ailleurs que le journaliste et l'avocat opèrent souvent un rapprochement dans le dos du juge. Le défenseur a la possibilité de communiquer à tous les stades de la procédure, dès le début de l'instruction, avant le procès, pendant le procès, au jugement. Il n'est tenu que par le secret professionnel. Dans un procès polémique, comme celui de l'affaire Doutreau à Saint-Omer, les voix de la défense, vous en souvenez, ont résonné tous les soirs dans les médias, contre l'instruction, contre l'accusation, contre la conduite des débats, avec la bienveillance des reporters qui sont avides de sonores, ils appellent les interviews par ce terme-là, ces sonores qui leur aident à bâtir leur sujet pour le journal, de la radio ou du 20h de la télévision. Et ce n'est pas leur faire injure de dire des avocats qu'ils sont attirés par les micros et les caméras, certains d'entre eux en tout cas, comme certains papillons par la lumière. Et pour n'en citer qu'un, je revois le regretté Jean-Marc Varro, il y a une trentaine d'années, sauté de joie devant le palais de justice de Versailles, comme un lycéen reçu au bac, parce que dans mon compte-rendu de chroniqueur judiciaire débutant, je citais sa plaidoirie, ce qui paraît être la moindre des choses. Et moi, jeune chroniqueur, j'étais le premier surpris par la réaction enthousiaste de cet avocat qui avait déjà une certaine réputation. Et je pense qu'il fallait y voir en fait une question de notoriété, bien sûr, et de retombées commerciales, pour un professionnel qui investit parfois sans la garantie d'être payé, dans une procédure incertaine et de plus en plus souvent au long cours. Alors on voit bien que dans les relations entre les médias, l'opinion et la justice, beaucoup de malentendus tiennent à des problèmes de transparence et de communication. Le secret de l'instruction a tourné depuis longtemps au secret de Polichinelle. Voyez avec quelle facilité les procès-verbaux d'audition dans l'affaire Clearstream inondent la presse. La solution, me semble-t-il, n'est pas de lever le secret. Je considère qu'il est inhérent au système inquisitoire à la française. Il faut conserver un minimum de garanties pour tout citoyen aux prises avec la justice pendant toute la phase de l'enquête et de l'instruction. Mais on peut certainement aménager l'article 11 du Code de procédure pénale vers davantage de transparence. L'idée d'une audience publique est contradictoire. Dès que la procédure le permet, est séduisante. On l'appellerait « fenêtre de publicité ». Elle ferait baisser la pression sur l'instruction en offrant un premier rendez-vous d'information aussi honnête et loyal que possible. Si le juge est tenu au secret, le procureur et ses substituts sont habilités à communiquer, et bien qu'ils le fassent, au moins pour rectifier des erreurs, démentir de fausses informations, de fausses pistes. Et quand vient le temps du procès, faut-il autoriser les caméras dans les prétoires ? Vaste sujet qu'il me faut résumer ici, j'arrive à la fin de mon propos, en quelques phrases, comment répondre à une demande de publicité grandissante tout en préservant les débats judiciaires et les acteurs du procès. Le journaliste de télévision que je suis est évidemment favorable à une plus large diffusion, mais pas n'importe quand et pas n'importe comment. Le chroniqueur judiciaire que je suis aussi n'imagine pas des extraits de procès en direct ou même en léger différé dans les journaux télévisés. Le saucissonnage de l'audience ne peut, me semble-t-il, que favoriser la justice spectacle et la caricature du débat judiciaire. On ne peut courir le risque de réduire, par exemple, le trop fameux procès de Saint-Omer sur l'affaire Outreau au coup de théâtre provoqué par les revirements de Myriam Badawi, accusée numéro 1 et mythomane avérée. En revanche, après la décision judiciaire à bref délai, on pourrait autoriser une diffusion unique des débats aux médias qui s'engagent à produire un montage large et équilibré, à défaut de pouvoir tout diffuser, il ne faut pas tout demander. Cette avancée de l'image présenterait un double avantage, une meilleure information du public et un document vérité sur le fonctionnement de la justice. Une conclusion à laquelle a d'ailleurs abouti la commission Linden sur la captation et la diffusion des débats judiciaires, commission à laquelle j'ai participé l'année dernière en compagnie du procureur général honoraire, ici présent, Henri Desclos. Bien entendu, il faut favoriser les documentaires et magazines de société qui s'attachent à montrer à la télévision comment marche la justice et comment elle se comporte avec les justiciables. La retransmission des débats de la commission Doutreau sur la chaîne parlementaire a eu au moins un effet positif. Elle a familiarisé le grand public avec la justice, elle a mis l'accent sur les problèmes récurrents de personnel et de moyens financiers de l'institution judiciaire. Soit dit en passant, les tribunaux, si souvent distants et méfiants avec la presse, sont ravis de lui ouvrir leurs portes pour souligner, par exemple, le manque de greffiers et de fonctionnaires et l'insuffisance des budgets de fonctionnement des juridictions. Il est dommage que la presse n'ait pas vocation à faire aussi des reportages sur elle-même. Elle le fait de temps en temps, mais bien timidement. Le public apprendrait que la qualité du journalisme judiciaire est en cause. Dans cette spécialité qui exige du temps, des précautions, des vérifications, du recul, les professionnels sont de plus en plus bousculés. Au nom de la concurrence et du moindre coût, on leur demande de faire vite, de fournir beaucoup et d'être interchangeables. On voit aujourd'hui des reporters sauter d'un fait divers à l'autre et même d'un procès à un autre, parfois dans la même journée. La qualité a un coût pour la presse comme pour la justice. Cette inquiétude commune face à la détérioration des conditions de travail devrait pouvoir rapprocher d'ailleurs magistrats et journalistes. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils doivent se rencontrer, se parler, apprendre à mieux se comprendre. Si la justice ne peut pas tout dire, elle doit faire des efforts pour en dire plus et le dire mieux. Si la presse ne doit pas se taire, elle ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne passera pas radicalement d'un climat de défiance à un climat de confiance entre les deux institutions. Chacun, d'ailleurs, doit garder ses distances. Mais une meilleure connaissance des contraintes et des exigences de l'autre ne peut qu'aider à apaiser les relations entre la justice et les médias. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de M. Jean-Pierre Berthet, chroniqueur judiciaire, sur le thème « Justice et médias », une communication prononcée à l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 19 juin 2006.